Une inspection honnête. Il y a quelques semaines, nous avons abattu les cloisons dans le nouvel espace au premier étage. Ce week-end, nous avons commencé à peindre l'espace. Certains d'entre vous sont venus vendredi ou samedi, ou les deux, pour peindre les murs et les colonnes. La construction d'une nouvelle scène pour cet espace a déjà commencé. Il reste encore des choses à faire, mais le projet avance, les choses bougent, et c'est enthousiasmant de voir le progrès se développer. C'est excitant de voir l'Église s'unir. L'objectif est que l'espace soit principalement prêt d'ici le 7 décembre, le prochain dimanche de shopping, mais cela pourrait arriver plus tôt. Nous verrons bien. Merci de garder cela dans vos prières. Vendredi soir, lorsque l'équipe peignait, il était évident que certains murs avaient besoin d'un peu plus de préparation, un peu plus de ponçage, un peu plus de calfeutrage. Tout le monde était prêt à peindre, mais il est devenu évident que certaines parties des murs nécessitaient un peu plus d'inspection avant de passer à l'étape suivante. Et cela m'a fait penser à l'une de mes histoires préférées dans la Bible, lorsque quelqu'un devait inspecter les murs afin de passer à l'étape suivante. Mais comme nous le voyons souvent dans la Bible, il ne s'agit jamais seulement de la tâche, il ne s'agit jamais seulement du projet. Ce n'est jamais simplement une question d'accomplissement. Avec Dieu, il y a toujours une dimension spirituelle. Dans tout ce qui nous appelle à faire de nos mains, ce qui l'intéresse le plus, c'est le travail qui se fait dans votre cœur. Alors la question avec laquelle je voudrais que nous luttions ce matin est la suivante. À quand remonte la dernière fois que vous avez inspecté votre cœur? À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une évaluation honnête de ce qui se tasse dans votre âme en ce moment? Qu'est-ce qui a besoin d'attention? Qu'est-ce qui a besoin de travail? Voilà ce que je veux examiner. Alors si vous avez une Bible, veuillez l'ouvrir avec moi à Néhémie, chapitre 2. Le contexte, c'est que la nation d'Israël a été en exil pendant 100 ans à Babylone. À cause de la désobéissance d'Israël, les Babyloniens sont venus et ont détruit Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, et beaucoup d'Israélites sont morts. Mais pas tous. Il y avait un reste, quelques-uns à qui il a été permis de vivre à Babylone. Et après environ 100 ans, Babylone a été détruite, et maintenant, l'Empire perse était au pouvoir. L'un de leurs rois a permis aux Israélites de retourner dans leur pays et de reconstruire leur ville. Au chapitre 1, nous faisons la connaissance d'un homme nommé Néhémie, et lorsqu'il a appris qu'il avait la possibilité d'aller reconstruire Jérusalem, il a été poussé à aider. Il a prié et jeûné et a demandé au roi s'il pouvait aider à diriger la reconstruction. Dieu a répondu à la prière de Néhémie, et le roi a accepté, lui donnant même des matériaux pour reconstruire les murs. Les choses se mettaient en place, les choses avançaient, ce qui nous amène au milieu du chapitre 2 aujourd'hui. 9. Je me rendis ensuite auprès des gouverneurs de la province d'au-delà du fleuve, et je leur remis les lettres du roi. Le roi m'avait fait accompagner par des officiers de l'armée et des cavaliers. 10. Mais Sanballat, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'apprirent. Cela leur déplut fortement qu'un homme soit venu pour chercher le bien des enfants d'Israël. Plus tôt dans le chapitre 2, lorsque le roi a donné sa bénédiction à Néhémie pour reconstruire la muraille, Néhémie a demandé au roi des lettres à remettre au gouverneur de la province d'au-delà du fleuve, afin qu'il le laisse traverser en toute sécurité. C'était avant l'email et les textos, donc les lettres du roi validaient la mission et permettaient aux gens de savoir que Néhémie avait la bénédiction du roi. Ainsi, Néhémie se présente au gouverneur du pays et leur remet les lettres du roi, et il le laisse passer. De plus, au verset 9, nous voyons que Néhémie est arrivé avec prestance. Le roi avait envoyé avec lui des officiers et des cavaliers. Peut-être que le roi a fait cela pour montrer aux autres qu'il soutenait Néhémie et ce qu'il faisait. Ainsi, le roi soutenait Néhémie. Mais nous voyons, au verset 10, que tout le monde n'était pas enthousiaste quant à la mission de Néhémie. Ces hommes, Sanballat et Tobija, découvrent ce que fait Néhémie, et cela ne leur plaît pas. Eux et leur peuple s'étaient installés dans la région pendant qu'Israël était en exil. Donc ils n'étaient pas contents que Néhémie et son équipe reviennent pour reconstruire. Nous voyons ici que la tâche ne sera pas facile. Il y aura de l'opposition. Il y aura des obstacles, malgré la bénédiction du roi. Mais Néhémie continue d'avancer. 11. Je me rendis à Jérusalem, et j'y restai 3 jours. Néhémie arrive enfin à Jérusalem, et se repose probablement pendant 3 jours. C'était les jours d'avant Ryanair et Wizz Air. Le voyage faisait environ 1500 kilomètres, et il lui a probablement fallu 3 mois pour atteindre Jérusalem. C'était un long voyage. Mais après un peu de repos, Néhémie est prêt à se mettre au travail. 12. Je me levai de nuit, moi et quelques hommes avec moi. Je ne dis à personne ce que mon Dieu avait mis dans mon cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi aucun autre animal que celui que je montais. Néhémie se lève au milieu de la nuit. Il y avait quelques autres hommes avec lui. Mais apparemment, ils ne savaient pas ce que faisait Néhémie. Alors, que sont-ils allés faire? 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, en direction de la source du dragon et à la porte du fumier. Et j'inspectai la muraille de Jérusalem qui était écroulée et ses portes qui avaient été consumées par le feu. La première chose que fit Néhémie, même avant d'expliquer à ses propres hommes quelle était la mission, fut d'aller faire une inspection. Il se rendit pour examiner les murailles de la ville. Avant de révéler à quiconque ce que Dieu avait mis sur son cœur, il alla voir la situation de ses propres yeux. Il alla se faire une idée réaliste de ce qui s'était passé et de ce qu'il fallait accomplir. C'est intelligent pour de nombreuses raisons. Mais l'un des avantages de ne pas dire à quiconque ce qu'il voulait faire est que cela éloigne ses ennemis. S'ils ne savent pas ce qu'il fait, ils n'essaieront pas encore de l'arrêter. Mais il est aussi avisé d'attendre pour informer ses propres gens jusqu'à ce qu'il ait un plan complet. Et avant de pouvoir établir un plan, il doit d'abord inspecter et voir ce qui doit être fait.
J'ai déjà raconté cette histoire, mais à l'époque où j'étais étudiant à l'université, je travaillais dans un camp chrétien pendant les étés. Et un été, je ne sais pas pourquoi, mais ils m'ont confié la responsabilité de diriger des groupes pour remplacer les toits de maison pour des gens qui n'en avaient pas les moyens. Comme d'habitude dans ma vie, je n'avais aucune expérience ni formation dans ce domaine. Mais on attendait de moi que je dirige un groupe de 20 étudiants chaque semaine pour remplacer les toits. Donc, le premier jour, moi et le groupe allons à cette maison. Tous nos matériaux sont là, donc tout ce que nous avons à faire, c'est commencer à travailler. Alors je dis au groupe, d'accord, enlevons l'ancien toit. Et donc le groupe commence à enlever le toit. Et je me sens plutôt bien. Mais ensuite, des problèmes surviennent. Ils commencent à se poser des questions sur le projet, et je n'ai pas les réponses. Certains travaillent, mais beaucoup dans le groupe ne savaient pas quoi faire. Et puis, je marchais sur le toit, quand j'ai senti le bois sous mes pieds commencer à craquer. Je ne savais pas où je devais poser les pieds, donc j'avais apparemment marché sur une partie de bois fragile et j'ai commencé à passer au travers. Heureusement, il y avait des poutres en bois auxquelles je me suis accroché, donc je ne suis pas tombé complètement. Ainsi, la moitié supérieure de mon corps se trouvait au-dessus du toit, tandis que mes jambes pendaient à l'intérieur de la maison. En tombant, le bois m'a entaillé les côtés, donc je saignais partout. Les étudiants m'ont aidé à sortir et à arrêter le saignement. C'était l'un de ces moments de la vie où la métaphore était si évidente. Le premier jour fut un désastre.
Je ne savais pas ce que je faisais, et nous n'avions pas de bon plan.
Néhémie n'a pas commis la même erreur que moi. Il n'est pas arrivé à Jérusalem pour ensuite dire à tout le monde immédiatement. D'accord, construisons ce mur. Non. D'abord, il a examiné la situation. Il a évalué. Il a inspecté les différentes portes de Jérusalem. Il a fait le tour de la ville et a observé les murailles de Jérusalem qui étaient en ruine et les portes qui avaient été brûlées. Et à la lecture de ces versets, on peut presque ressentir que Néhémie commence à élaborer un plan dans sa tête. Il continue d'inspecter. 14. Je me dirigeais alors vers la porte de la fontaine et vers la piscine du roi. Mais il n'y avait pas de place pour que l'animal sur lequel j'étais puisse passer. 15. Je montais de nuit par la vallée, j'inspectais la muraille. Puis, rentrant par la porte de la vallée, je revins. 16. Les magistrats ne savaient pas où j'étais allé, ni ce que je faisais. Je n'avais rien dit encore aux juifs, aux prêtres, aux grands personnages, aux magistrats et à tous ceux qui s'occupaient des travaux.
Néhémie continua d'inspecter la ville et les portes. Nous lisons ici qu'il y avait tant de destruction dans la ville qu'il ne pouvait pas passer avec son animal. Il a donc dû changer de route et passer par la vallée afin de pouvoir revenir. J'imagine presque Néhémie penser. Nous avons beaucoup de travail à faire. Il rentre donc à l'endroit où il logeait. Et personne ne savait encore ce qu'il faisait. Néhémie n'essayait pas d'exclure les gens du processus.
Il ne cherchait pas à garder le secret, juste pour garder le secret. Il savait que ce n'était pas encore le bon moment pour leur dire. Il était intelligent et stratégique. Mais comme nous le voyons au verset 17, le peuple n'a pas eu à attendre trop longtemps.
17. Alors je leur dis, vous voyez le malheur où nous sommes. Comment? Jérusalem est en ruine et ses portes consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, afin que nous ne soyons plus dans l'opprobre.
18.
Je leur racontais comment la main de mon Dieu avait été favorable sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Ils dirent, « Levons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent en cette bonne œuvre. Néhémie parla enfin au peuple. Il commence son discours en s'identifiant au peuple. Bien que Néhémie ne soit là que depuis 3 jours, il ne dit pas « Regardez le malheur dans lequel vous êtes ». Il dit « Regardez le malheur dans lequel nous sommes ». Ils partagent leur situation.
Et puis ils parlent de la gravité de la situation. La ville de Jérusalem est en ruine, les portes sont détruites et ils sont l'objet de moqueries. Néhémie ne ment pas sur la situation, il n'essaie pas de la minimiser. Non, il est honnête à ce sujet. Il ne vit pas dans un monde de rêves, il vit dans la réalité. Il y a un grand problème et il faut y remédier. Il implique aussi le peuple dans l'histoire. Il leur raconte comment Dieu l'a conduit jusqu'ici. Il leur dit comment le roi lui a donné sa bénédiction pour reconstruire les murailles de la ville, ainsi que sa protection et des fournitures. Néhémie rend témoignage de l'action de Dieu. Il explique au peuple comment Dieu l'a guidé jusqu'à ce point.
Bien sûr, Néhémie aurait pu dire « Dieu m'a conduit à faire cela, alors nous allons commencer à le faire ». Et peut-être que certaines personnes auraient suivi. Mais les gens aiment les histoires. Les gens veulent que vous captiez non seulement leur cœur, mais aussi leur imagination. Je suis certain que lorsque le peuple a entendu les récits de la foi de Néhémie, il a été encouragé et a voulu en faire partie. Nous devrions partager nos cœurs et nos histoires avec les autres pour les inspirer, pour les faire entrer dans l'histoire. Enfin, Néhémie les invite à participer. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Néhémie a fait la préparation et la planification nécessaires. Et maintenant, sa vision deviendra la vision du peuple. Néhémie ne peut pas construire cette muraille tout seul. Il faudra le peuple.
Il est toujours tentant d'essayer de tout faire par nous-mêmes. Peut-être pensons-nous que les autres ne sont pas prêts, ou peut-être pensons-nous que les gens feront les choses de la mauvaise façon. Alors parfois, nous décidons simplement, « D'accord, je vais le faire moi-même. » Mais ce n'est ni possible, ni biblique. Nous avons besoin de tout le corps du Christ pour accomplir ses desseins. Si nous essayons de tout faire seuls, nous ne tiendrons pas longtemps. Nous devons inviter les autres à participer à ce que Dieu est en train de faire. Bien sûr, ils ne feront peut-être pas les choses comme nous les ferions, et peut-être les ferions-nous mieux, mais ce n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous avons besoin les uns des autres pour accomplir de grandes et puissantes choses pour le Seigneur. Alors il les invite. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. J'aime à quel point la vision est claire ici. Néhémie dit simplement, venez, bâtissons cela ensemble. Et nous voyons au verset 18, que Dieu a béni la vision de Néhémie. Que Néhémie a fait la préparation et la planification nécessaires, et que c'était maintenant le bon moment pour annoncer cette vision au peuple. Et le peuple dit, « Levons-nous et bâtissons. » Quel moment ! Nous aspirons tous à faire partie de quelque chose de bien plus grand que nous. Et ici le peuple dit, « Oui, nous voulons en être. » Néhémie a vu ce qu'il fallait faire. Il a rassemblé une équipe, et ils sont prêts à se mettre au travail. Mais cela ne veut pas dire que ce sera facile.
19. Mais lorsque Sambala le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite, et Geshem l'Arabe l'apprirent, ils se moquèrent de nous et nous méprisèrent, en disant « Qu'est-ce que vous faites là? Vous révoltez-vous contre le roi ?» Sambala et Tobija sont de retour, cette fois-ci avec un nouvel ami nommé Geshem. Ils entendent parler du plan de Néhémie et commencent immédiatement à s'en moquer. Ils essaient de décourager le peuple en ridiculisant leur mission. Ils essaient même de dire qu'Israël se révoltait contre le roi, ce qui était évidemment faux, puisque le roi avait donné sa bénédiction à Néhémie. Mais ce n'est pas nouveau. Lorsque vous vivez par la foi, il y aura toujours de l'opposition. Il y aura toujours des personnes comme Sambala, Tobija et Geshem. Il y aura des gens qui se moqueront de vous et voudront vous voir échouer. Néhémie et Israël ne faisaient rien de mal, si bien que la seule chose que Sambala, Tobija et Geshem pouvaient faire était d'attaquer la valeur de leur projet. Ils se moquent d'eux en disant « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et même s'ils n'avaient aucun fondement pour leurs attaques, ces paroles peuvent blesser, n'est-ce pas?
Lorsque nous faisons un pas de foi et que nous faisons confiance à Dieu pour accomplir quelque chose de puissant, cela peut être une position vulnérable, et il est facile pour quelqu'un de l'extérieur de dire « Que fais-tu donc ?» Cela ne marchera jamais, ou quelle perte de temps. Il est toujours plus facile d'être critique que d'être la personne qui essaie quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Lorsque vous essayez de vivre par la foi et de faire quelque chose de grand pour le Seigneur, il n'y a pas seulement des attaques de l'extérieur, mais souvent aussi des attaques de l'intérieur. Satan ne veut pas que les gens vivent par la foi et fassent confiance à Dieu, alors il fera tout pour essayer de l'empêcher. Il cherchera à semer la désunion dans la communauté. Alors, comment Néhémie répond-il ?
20. Alors je leur répondis, « Le Dieu du ciel nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. » Néhémie n'a pas répondu en disant, « Le roi a dit que je pouvais faire cela, ou en justifiant ses actions. » Au lieu de cela, il commence en déclarant que Dieu est avec eux. Il ne parle pas de l'autorité du roi, il parle de l'autorité de Dieu, et il affirme que Dieu est avec eux. Il leur accordera la réussite. Il les ignore et dit en substance, « Regardez, nous avons du travail à accomplir. Il est temps de reconstruire. Comme je l'ai dit plus tôt, avec Dieu, il ne s'agit jamais uniquement de la tâche, jamais uniquement du projet. Il ne s'agit jamais simplement de l'accomplissement du travail. Avec Dieu, il y a toujours un aspect spirituel. Dans tout ce qu'il nous appelle à faire de nos mains,
Ce qui l'intéresse le plus, c'est l'œuvre qui se fait dans notre cœur.
Je crois que c'est un moment, alors que nous rénovons physiquement l'espace au premier étage, pour réfléchir à l'œuvre spirituelle que Dieu veut accomplir dans votre cœur et dans cette Église. Pour considérer les choses que le Seigneur veut rénover et transformer dans votre âme. Qu'est-ce que Dieu veut rebâtir à l'intérieur de vous? Permettez-moi de vous donner 4 points à considérer, tirés de Néhémie, chapitre 2. Pendant que vous réfléchissez à ce que Dieu veut rebâtir dans votre vie, premièrement, une inspection honnête est la première étape. Avant que Néhémie ne fasse quoi que ce soit d'autre, il a fait le tour et a inspecté les murs et les portes. Il a observé les dégâts. Afin de savoir ce qu'il devait faire, il a dû regarder honnêtement la situation actuelle. Qu'est-ce que le Seigneur veut que vous examiniez ce matin dans votre vie? Sur quoi le Seigneur veut-il que vous soyez honnête? Qu'est-ce qui a besoin d'attention?
Il est facile de vivre dans une sorte de monde de rêve où nous pensons « Oh, un jour je travaillerai là-dessus » ou « Je finirai par remettre cette partie de ma vie au Seigneur » ou encore « Je ne veux pas y penser pour l'instant. » Et nous continuons à remettre les choses à plus tard pour ainsi dire. Je comprends cela. Il n'est pas toujours facile d'être honnête à propos de l'état de notre cœur. C'est une situation qui nous rend vulnérables, parce que nous pouvons voir toutes les choses qui doivent être réparées et pensées. Comment Dieu pourrait-il réparer tout cela? Il y a trop de cassures. Il y a trop de dégâts. Il y a trop de travail à accomplir. Il est plus facile de ne même pas commencer. Je suis certain qu'en marchant autour de la ville, Néhémie a probablement été surpris par l'ampleur des dégâts. Je suis sûr qu'il a été un peu étonné par tout le travail qu'il restait à faire. Mais il savait une chose importante. Il savait que le Seigneur était avec lui. Et cela lui a donné le courage de commencer.
Nous servons un Dieu qui se spécialise dans la restauration.
Nous servons un Dieu qui veut guérir les parties brisées de votre cœur.
Dieu, dans sa grande miséricorde et son amour, a envoyé son Fils Jésus sur la terre pour nous racheter, pour réparer ce qui est brisé, pour nous pardonner, pour rebâtir nos vies pour lui. Nos vies étaient brisées à cause du péché.
Mais en vous repentant de vos péchés et en croyant en Jésus-Christ, vous pouvez être sauvés.
Et votre vie peut être bâtie sur une fondation solide en Christ, la pierre angulaire. Peu importe que vous n'ayez jamais entendu parler de Jésus ou que vous suiviez Jésus depuis 30 ans, Dieu veut constamment que nous venions à lui afin qu'il puisse continuer à réparer ce qui est brisé dans nos cœurs.
Mais je pense qu'avant de pouvoir en arriver là, nous devons être honnêtes avec Dieu au sujet de ce qui se passe réellement.
Nous devons dire à Dieu, « Viens Seigneur, et rebâtis-moi, guéris-moi, répare-moi. » Nous devons vivre dans la réalité avant même que le projet puisse commencer.
Tu sais, ce premier jour où j'ai travaillé dans ce camp d'été, ça a été un désastre. Je veux dire, ça ne peut pas être bien pire que de passer à travers le toit et de saigner partout. J'étais censé diriger le groupe, mais au final, c'est le groupe qui a dû me sortir de là et prendre soin de moi. Ce n'était pas une bonne journée, mais avec le recul, c'était nécessaire. Je pense que j'avais besoin de tomber à travers ce toit pour être honnête à propos de la situation.
J'avais besoin de tomber à travers ce toit pour être honnête sur le fait que je n'avais aucune idée de ce que je faisais. J'avais besoin de tomber à travers ce toit pour être honnête sur le fait que j'avais besoin que Dieu intervienne. Et une fois que j'ai été honnête à propos de tout cela, les choses se sont améliorées.
À la fin de l'été, tout était complètement différent.
J'ai appris la construction.
Chaque fois qu'un groupe venait avec de l'expérience, j'utilisais leur expérience. Chaque semaine, ça s'améliorait et c'était plus organisé. Vers la fin, je n'avais plus besoin d'être sur le toit parce que je passais plus de temps à former les gens sur ce qu'il fallait faire et à les encourager dans leur travail.
Mon point est que j'avais besoin d'être honnête avec moi-même avant de pouvoir grandir. De quoi as-tu besoin d'être honnête avec le Seigneur? Peut-être s'agit-il d'une attitude que tu as en ce moment sur certaines choses. Un peu de ressentiment, un peu d'amertume. Peut-être que tu n'aimes pas la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Tu aimerais être ailleurs. Tu aimerais que ta situation soit différente. Mais au lieu de remettre cette déception au Seigneur, tu t'y accroches comme à une couverture. Écoute, ne laisse pas cette amertume s'enraciner. Sois honnête avec le Seigneur. Il peut le supporter. Et lorsque tu es honnête avec le Seigneur, la guérison peut commencer.
Peut-être que tu as besoin d'être honnête avec le Seigneur au sujet d'un péché particulier qui te retient dans ta vie. Dans ta tête, tu te dis, « J'ai ça sous contrôle.
Je peux gérer. Je peux m'en occuper. » Mais les jours passent, les mois passent, les années passent, et il est clair que ce péché a le contrôle sur toi. Confesse ces péchés au Seigneur. Confesse ces péchés à des personnes en qui tu as confiance, afin qu'elles puissent prier pour toi.
Lorsque tu es honnête avec toi-même, avec le Seigneur et avec son peuple, la guérison peut commencer. Peut-être que tu as besoin d'être honnête dans une certaine relation. Les choses ne vont pas bien, mais tu ne veux pas l'admettre. Tu ne veux rien dire. Il est plus facile de faire semblant que tout va bien, plutôt que de s'occuper des choses qui demandent de l'attention. Mais la vérité, c'est que cette relation ne s'améliorera pas tant que tu n'es pas honnête.
Récemment, quelqu'un m'a emprunté ma voiture pendant quelques jours. C'est une voiture ancienne. Et lorsqu'il m'a rendu la voiture, il m'a dit qu'il avait entendu des bruits inquiétants en conduisant. J'ai ri et j'ai dit, « Oui, quand j'entends ces bruits, c'est là que je monte le son de la musique. C'est une solution temporaire, je n'entends plus les bruits inquiétants, mais cela ne règle pas le problème de fond. » Il n'est pas facile d'être honnête sur l'état de certaines de nos relations, mais c'est nécessaire pour que ces relations puissent grandir en guérison.
Le mois prochain, nous aurons notre retraite de mariage annuel et tout l'objectif est de sortir de la ville, de sortir de nos routines quotidiennes, afin de pouvoir examiner la santé de nos mariages.
Être honnête au sujet des bonnes choses et des moments difficiles dans la vie conjugale, afin que nous puissions grandir.
Certains parmi vous pourraient entendre cela et penser, « Pas question, je n'irai pas. Je ne veux pas examiner les murs de notre mariage. Il y a trop de dégâts, il y a trop à réparer. » Écoutez, un week-end ne règle pas tout dans un mariage. Les murailles de Jérusalem n'ont pas été construites en un week-end. Mais un week-end d'honnêteté peut être le fondement sur lequel la guérison commence. La retraite de mariage n'est pas destinée aux couples qui ont tout compris. La retraite de mariage est pour tous les couples. Alors, faites un pas de foi et prenez l'engagement de venir. Si vous êtes assis à côté de votre conjoint, tapez-lui sur la jambe maintenant et dites « Allons-y ». Une inspection honnête est la première étape pour laisser Dieu réparer ton état d'esprit, tes relations et ta vie. À propos de quoi as-tu besoin d'être honnête aujourd'hui ? Le deuxième point, en lien avec le premier.
2. N'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse tout le travail. Néhémie a vu les problèmes à Jérusalem, mais il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre vienne et fasse tout le travail. Il a pris les choses en main. Il a pris ses responsabilités. Il n'a pas dit que c'était le problème d'Israël. Il a dit que c'était notre problème. Il s'en est approprié. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre vienne réparer tout dans votre vie. Certaines personnes font une inspection honnête. Elles voient les problèmes. Mais ensuite, elles attendent que quelque chose se passe. Elles attendent que quelqu'un d'autre vienne tout réparer. Et puis rien ne se passe. Rien ne change.
Néhémie a vu ce qu'il fallait faire et il a commencé à élaborer un plan. À un certain moment,
il faut regarder ce qu'il y a à faire et dire « D'accord, Seigneur, allons-y, faisons le travail, fais-moi grandir à travers cela, guéris-moi de cela, Seigneur. Ces murailles ne définiront pas ma vie, ma relation avec toi définit ma vie, aide-moi, Seigneur. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre vienne faire tout le travail. Maintenant, ceci étant dit, 3.
Vous ne pouvez pas faire le travail tout seul. Néhémie a dit, venez rebâtissons la muraille.
Il ne pouvait pas le faire tout seul. Il avait besoin d'aide. Donc, vous ne pouvez pas attendre que quelqu'un d'autre fasse tout le travail. Mais en même temps, vous ne pouvez pas faire le travail tout seul. Nous avons besoin les uns des autres. Il y a un vieux dicton. Si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va ensemble. Nous avons besoin les uns des autres.
Je vous encourage à lire Néhémie chapitre 3 cette semaine. C'est une belle illustration du peuple de Dieu, travaillant ensemble. Ils posaient des poutres, installaient les portes. Les orfèvres et les parfumeurs travaillaient ensemble sur les murailles. En d'autres termes, les gens accomplissaient des tâches qui n'avaient rien à voir avec leurs dons. Mais ils se sont levés et ont travaillé ensemble parce que la tâche devait être accomplie. Ces derniers jours, pendant la peinture, j'ai demandé à certaines personnes qui peignaient si elles l'avaient déjà fait auparavant. Et certaines d'entre elles ne l'avaient jamais fait. Mais elles étaient là, servant le Seigneur et servant son Église. En d'autres termes, nous avons besoin les uns des autres. Si vous essayez de vivre cette vie tout seul, vous finirez par vous épuiser. Dieu a regardé Adam et a dit qu'il n'était pas bon pour lui d'être seul. N'essayez pas de rebâtir votre vie tout seul. C'est trop. Mais vous avez des frères et sœurs en Christ qui veulent vous soutenir et vous aider. Portons-nous les uns les autres. Un dernier point.
4. Il y aura de l'opposition. Nous le voyons ici dans Néhémie chapitre 2 avec Sanballat et Tobia. Et c'est aussi ainsi dans le reste du livre de Néhémie. La vérité, c'est qu'il y aura de l'opposition, que ce sera difficile, mais qu'au final, cela en vaut la peine. Tout ce qui vaut la peine d'être fait n'est pas facile. Vous ferez face à l'opposition et à l'adversité, mais à la fin, cela en vaut toujours la peine. Lorsque vous ouvrez votre cœur et laissez le Seigneur faire un peu de rénovation et de restauration, il y aura des obstacles que vous ne pouvez pas prévoir. Il y aura parfois des revers. Parfois, vous aurez l'impression de faire un pas en avant et deux pas en arrière. Mais faites confiance au fait que le Seigneur agit. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voyez, le travail qui se fait au premier niveau est enthousiasmant. C'est extraordinaire de voir quelque chose être transformé et reconstruit. Mais savez-vous ce qui est encore plus précieux et extraordinaire? C'est de vous voir faire des pas de foi, ouvrir votre cœur et laisser Dieu transformer, renouveler et rebâtir votre cœur.
Notre Dieu est fidèle. Celui qui a commencé une bonne œuvre dans votre cœur l'amènera à son accomplissement.
Nous servons un Dieu dont le domaine est la restauration. Nous servons un Dieu qui veut guérir ces parties de votre cœur qui ont besoin d'être réparées. La question est, serez-vous honnête avec lui à propos de ces choses?
Comme nous le voyons, Néhémie chapitre 2, c'est la première étape.
La fin du sermon.